Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vous criez dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres barons. Fini le rigole, mis le mot et les lourdes peines.
Bruit de tôle. Bruit de tôle est une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes. Sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Ce soir, nous avons un invité, donc ancien prisonnier, qui va nous parler de son expérience entre les murs. Nous continuerons avec une page internationale où nous aborderons la situation des prisonniers en Grèce, au Pays Basque et au Mexique. Et nous terminerons avec des brèves sur la justice et les tribunaux et nos traditionnelles annonces. Donc si vous voulez nous appeler pendant l'émission, vous pouvez le faire au 05 61 53 36 95. De préférence pendant les morceaux de musique, et d'ailleurs il y en a un tout de suite.
Moi je pratique le rap par corps, tension violent breakbeat. Dans le style réaliste, ce qu'on appelle lyrics explicites. Révolutionnaire dans mes textes, façon implicite. J'applique qu'une logique, ça s'applique à chacun de mes titres. Juste histoire d'une rime, j'aurais pu dire K-L-I-X. Indique que beaucoup de rappeurs ont sucé des beats. Indique que très peu de rappeurs font preuve d'une éthique. Et ont pour but unique de répondre à l'appel du public. Mais revenons tout de suite et vite dans le style authentique. Jeff mix la zig, je balance le verbalistique verdict. J'revendique de suite, j't'incite. Mafia d'Afrique, lorsque je la cite, tu flippes. Car c'est l'unique mafia qui nique, ça mérite d'exploser les hits. C'est les hits qui résistent face à toute pression médiatique. Détenant du titre pour avoir su rester véridique. Au risque de ne pas finir friqué comme Jagger Mick. Reprends mon souffle, Kerry, MC athlétique. J'ai un léger temps, restez bien tonique. Pas la panique sur speech, je n'ai plus de limite. Mon style est unique, j'insiste que personne m'imite. Lorsque ma technique atteint le point névralgique, j'entraîne le déclic, empêche ta meuf de rester pudique. Je débarque comme ça, tu sais ça, freestyle de sadique. Et je ricane de
façon cynique.
Rap hardcore, rap hardcore.
Son violent breakbeat, style réaliste sous la belle lyrique explicite. Mix la zik, j'balance le verbalistique vertique. Son c'est de la nitoire, de la pompatomique.
Rap hardcore,
son violent breakbeat, style réaliste sous la belle lyrique explicite. Révolutionnaire par mes textes, façon implicite. J'applique une logique, s'applique à chacun de mes titres.
Rap hardcore,
son violent breakbeat.
Donc de retour dans Bruit de Tôle et on va commencer tout de suite cette émission en te recevant du coup Deka, bonjour, salut à toi.
Donc, ah, bonsoir à tous.
Toi tu voulais venir nous parler un peu de ton expérience puisque du coup tu as fait quelques temps derrière les barreaux.
Mm-hmm.
Et du coup il y avait quelques sujets qui te dont tu avais envie de parler quoi, je sais pas si tu veux...
Bruit de Tôle, ça va, c'est une émission que j'apprécie particulièrement. J'étais déjà passé chez vous en fait il y a 2 ans quand j'étais dans une situation un peu à difficulté avec la justice en fait. Et j'avais bien apprécié ce qui était ressorti de cette émission-là parce qu'il n'y a pas assez de messages qui sont véhiculés sur les conditions de vie en prison.
Ouais.
Et je pense que les gens entendent toujours un écho, c'est-à-dire celui du système qui prône le système carcéral français, soi-disant, serait super, amènerait à la réinsertion, proposerait aux détenus de pouvoir passer des diplômes, de travailler en détention, de faire de l'argent pour la sortie. Ils mettent beaucoup en avant le travail des SPIP, donc les conseillers
d'insertion,
ouais. Qui soi-disant nous aideraient aussi beaucoup pour trouver du travail, pour trouver un logement, tout ça. Et moi, je voulais juste dénoncer que c'est une belle coquille, mais vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Après quelques années en détention, quand tu vois les choses concrètement, comment elles se passent, sur l'accès au travail en détention, sur le salaire qu'on va avoir, sur les possibilités de formation, sur les profs qui viennent donner les cours et la fréquence à laquelle ils viennent les donner, et sur surtout l'accompagnement à la sortie, qui est inexistant pour la plupart des détenus. Je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qu'on entend régulièrement et c'est pas un message qui est véhiculé, alors que c'est la réalité de 80% des détenus qui sont pas assistés par leur famille à l'extérieur. Et je trouve ça vraiment...
C'est du pipeau.
Je trouve ça vraiment incorrect, quoi. On a qu'un son de cloche qui est mis en avant.
Mm-hmm. En fait, il n'y a pas de travail. Nous, on avait déjà dit, c'est un peu une contradiction, mais il y a du chômage en prison. C'est-à-dire, si tu demandes du travail, t'es pas obligé, t'en auras pas. Et c'est à la bonne discrétion de l'administration pénitentiaire. C'est eux qui décident qui pourra aller travailler, ouais, et qui n'ira pas.
Ça passe en commission, en fait, selon les gens qui sont assistés ou non assistés. Mm-hmm. Ça veut dire, selon par exemple, il y a des indigents en détention, ce qu'on appelle les indigents, c'est des personnes qui n'ont pas de mandat de l'extérieur, qui
donc
sont assistées par personne.
C'est l'argent qu'on envoie, quoi.
C'est l'argent qu'on envoie aux détenus pour qu'ils puissent continuer à l'intérieur, parce que l'histoire de remettre dans le contexte, en fait, quand tu es incarcéré, tu as un café, un sachet de lait, un sucre par jour. En dehors de ça, tu as une baguette et 2 gamelles dans la journée. Tu as strictement rien de plus. Ça veut dire que si tu es fumeur, oublie le tabac, on te donnera 20 euros par mois. Si les commissions l'acceptent, si ton comportement leur convient aussi. Donc c'est quand même des conditions qui sont pas négligeables, quoi. Ça veut dire, c'est-à-dire si le comportement te convient, bon, pour peu que tu aies une prise de tête avec un surveillant qui est un peu mal luné ce jour-là, eh ben écoute, ce mois-ci, tu n'auras pas tes 20 euros d'indigence. Ça veut dire que tes 2 paquets de tabac que tu as mensuellement, eh ben tu les oublies, tu t'assois dessus. Ça veut dire que si tu n'as pas de revenus, tu n'es rien. Là, tu es plus facilement classable aux ateliers ou au service général, comme les oxy ou ceux qui font le ménage ou ceux qui sont en cuisine. Mais sinon, en dehors des gars qui distribuent les gamelles, des gars qui font la bouffe et des gars qui font le ménage, il y a des ateliers qui se forment en détention. C'est des particuliers qui louent les locaux en fait, pour donner du travail aux détenus, sauf que le salaire est inférieur à un salaire qu'on va trouver par exemple en Roumanie. On va dire qu'il y a un des pays où le salaire est le plus bas encore. Mmh. Ça veut dire qu'en détention, on peut travailler des fois pour 50 centimes de l'heure.
En fait, ouais, je crois que, genre juridiquement, en fait, genre l'entreprise, elle vient et elle donne un travail. Le client, c'est l'administration pénitentiaire.
Mmh.
Il y a un contrat pour l'administration pénitentiaire. Mmh. Et ensuite, l'administration pénitentiaire fait travailler les prisonniers sur ce contrat-là, quoi.
Exactement.
Il n'y a pas un contrat par tête, en fait. fait.
Non, c'est pas un contrat par tête. Nous, ouais, le contrat qu'on passe avec la détention directement, c'est pas avec les, pas avec l'entreprise privée qui vient travailler
c'est
chez
ça.
Nous.
Okay, ouais.
Enfin, chez nous.
C'est un peu le système de l'esclavage.
dans la prison. Ouais.
Passé, quoi. Dans la prison, quoi. honte à moi.
Mais c'est un peu le système de l'esclavage. Hein.
Bah, c'était c'est à peu ça. Près le même
c'était,
principe.
C'était pas par tête de pipe, c'était ils vendaient tant de canne à sucre, etc. Et après, on n'en est pas loin.
Ils récupéraient les ouvriers.
Et quand tu dis 50 centimes de l'heure, le maximum, je crois que c'est 3 euros hein, de l'heure. Hein, ça va pas.
Alors, quand j'ai oxy, je crois, c'est à peu près ça.
Moi, j'ai fait des tafs où, franchement, je travaillais dur, puisque je savais que je voulais mettre un petit billet de côté pour la sortie. Et franchement, j'ai charbonné pendant 3 mois. Le meilleur salaire que j'ai fait, ça a été 600 euros. Et sur les 600 euros, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils t'enlèvent un tiers de ton salaire, donc tu cotises pour la vieillesse.
Donc là, c'est 600 euros,
pour la maladie.
Il t'enlève un tiers dessus, quoi.
Sur ces 600 euros-là, ouais. En plus des cotisations que tu as mises, donc on va dire tu vas gagner 680 euros, tu vas toucher 600 balles net. Sur ces 600 balles-là, il va t'en rester que 400. Les 200 euros manquants, en fait, c'est pour payer les parties civiles. Donc bien sûr, si tu as eu des problèmes d'outrage, rébellion, violence, on va dire avec les forces de l'ordre, ben,
ce sera pour
tous
les flics,
mois, il y a 150 balles qui vont sortir pour les flics et 50 euros mis de côté sur le PQ de libérable. Le PQ libérable, c'est ton compte qu'on va mettre de côté pour la sortie.
Pour que t'aies pas rien, du coup.
Pour que t'aies pas rien pour la sortie, c'est super intéressant. Dans le principe de mettre un petit peu d'argent, de prendre de force de l'argent pour qu'il soit attribué, qu'il soit donné aux détenus pour la sortie, sauf que sur 200 balles, on prend 150 balles pour payer les parties civiles et on te met que 50 euros sur ton PQ libérable. Elle est où la logique ? Elle n'existe pas, surtout que quand tu sors de prison, une fois que t'as fini ta peine. La prison, c'est quoi? C'est une punition comme pour les enfants. Quand t'es petit, t'as fait une connerie, tu vas dans ta chambre, tu manges pas ce soir, tu ressortiras demain matin. Sauf que là, c'est pour les adultes et tu vas y rester un an, deux ans, trois ans, X temps. Et à la fin de ta peine, on va t'ouvrir la porte et on va te dire au revoir, bonne continuation.
Débrouillez-vous.
Débrouillez-vous.
Comment on était sur le travail, c'est quoi comme genre de travail?
Des travails misérables. Vraiment des travails, moi par exemple, je ponçais des essuie-glaces d'auto-voiture, j'ai des collègues qui pesaient des vis, d'autres ils faisaient des mouches bébés, d'autres ils mettaient des ressorts dans du, je sais plus quel mécanisme pour faire je sais plus quoi, c'est vraiment les
Vous avez dit travail à la chaîne quoi, travail d'usine quoi, vraiment le travail
non,
de...
Non, à la tâche, c'est
ouais,
à la tâche
ouais,
même.
Ouais, c'est payé à la tâche, mais c'est ouais, ça. Hein.
C'est travail à la chaîne d'usine où tu fais la même tâche toute la journée quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais,
Vous avez dit qu'ils faisaient aussi, quand tu reçois par correspondance, des trucs genre Yves Rocher et tout ça, que t'as un petit carton qui te dit que t'as gagné quelque chose, dès que c'était aussi fait en prison. Il y avait aussi le pliage, mais maintenant
il y avait les femmes qui faisaient ça, qui pliaient les cartons, qui mettaient le parfum dedans et tac, et puis le parfum était payé, il était vendu 80 euros quoi.
Et il y a un super film qu'on a vu où, mais maintenant il y a le GPS donc il n'y a plus besoin, mais plier les cartes
routières,
les cartes routières,
voilà. Waouh, super comme taf,
taf enrichissant, donc ouais, voilà.
Voilà, mais c'est ça aussi, c'est, je veux dire, quelle relation tu as au travail, quand déjà quand tu étais à l'extérieur, le travail, bof, c'était quand même pas génial. Et là, on te montre, voilà, que le travail, c'est encore pire.
Ben en fait, ça,
et que ça te permet même pas de gagner d'argent, quoi.
Ben si tu gagnais un petit peu de thunes, à la limite, que tu dépenses pas forcément tout, parce que t'es en détention, ça veut dire que ce que tu cantines, c'est toujours pareil. T'as pas de choix. T'as le choix entre 10 viandes différentes, super chères. T'as le choix entre 2 cafés. Pareil, tout est super taxé, sauf les produits de base. Produits de base, j'allais commencer par dire les feuilles et le feu. C'est pas vraiment vital, quoi, mais pour les fumeurs, c'est moins cher. Oui. Les savons, les rasoirs, les pâtes, comme ça, c'est vrai que c'est moins cher qu'à l'extérieur. Mais tout le reste, tout ce qui est superflu, comme la crème fraîche,
le
chocolat, ou comme des sauces.
Ça vaut mieux qu'un antidépresseur, quand même.
Ben, justement, tu voulais parler des médocs aussi, je crois. Hors antenne, on discutait un petit peu, et tu voulais parler aussi de la médicamentation.
Ouais, la camisole chimique qui est foutue sur les esprits les plus faibles en prison, c'est vraiment horrible. Les médecins en détention, ils en ont strictement rien à foutre que quelqu'un se tue la santé aux médicaments et devienne un légume juste parce qu'il a pas la force d'esprit aussi. De c'est pas facile aussi la détention pour certaines personnes. Ça peut être super dur si t'as pas vraiment le caractère à t'imposer, si t'es pas suivi par ta famille dehors, si t'as pas de mandat, si t'as pas de parloir. Ça veut dire que t'es plus personne. T'es entre quatre murs et t'es un numéro, t'as ton matricule et t'es juste confronté à ta peine et t'es juste confronté à la vie qui t'entoure. Et en gros, tu vois qu'il y a des gens qui ont des parloirs, il y a des gens qui ont des courriers. Rien que de voir son co-détenu avoir des courriers et que toi, ça fait des mois et des mois que t'en as pas, ça met un coup au moral. Bon, tu dis au médecin, écoutez, je me sens pas bien en ce moment, je déprime un peu. Le médecin va dire, vous inquiétez pas, tenez, prenez des anxiolytiques, prenez du Valium, Seresta, Xanax, tous les noms de cachetons que j'ai appris en prison.
Ça fait des dépendances, ça, en plus.
Ça crée des dépendances, bien sûr, ça crée des dépendances. Mais eux, ce qui leur importe, c'est que le détenu reste calme. qui soit gérable.
Donc à moitié zombie, c'est pas grave.
À moitié zombie, c'est même au contraire mieux. Parce que le détenu sera super gérable. Et qu'après, lui, si tu l'as senti et qu'il sorte avec la bave aux lèvres, ça, c'est pas un problème. Et il y a franchement...
Toi, c'est des trucs que t'as vu, quoi, des gars qui, ouais. qui ouais. voilà, quoi, qui vraiment, ils prenaient un
six
gros
mois,
coup, quoi.
Vraiment, en 6 mois, j'en ai vu se détruire, mais que ce soit physiquement...
Mais c'était des cachetons qui étaient délivrés par l'administration pénitentiaire.
Par l'administration, des cachetons délivrés par l'administration.
Donc le médecin, derrière, il fait pas attention forcément à la dépendance que subit le gars.
Ils vont dire que non.
Ça dépend peut-être du médecin aussi, peut-être, j'imagine, non?
Je pense que ça dépend du médecin un peu, parce que je peux pas tous les mettre dans le même sac. Ce serait con de ma part, mais...
Et de la taille de la prison,
c'est
peut-être
vrai que
aussi,
dans,
non
dans l'ensemble, non, ça dépend, ça dépend de la manière que fonctionne la prison et tout. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Je crois que j'ai fait trois maisons d'arrêt, j'ai fait un CD, j'ai fait une semi-liberté. Et donc, à part en semi-liberté, parce que les détenus sont dehors la journée et rentrent le soir, donc il n'y a plus de système médicamenteux du service pénitentiaire. Ça veut dire que ce qui est pris à charge, c'est la CMU. Après, dehors, il n'a qu'à aller voir un médecin. Mm-hmm. Sinon, en dehors de ça, de toutes les maisons d'arrêt et les centres de détenus que j'ai fait, il y avait des populations de cachetonnés, comme on les appelle. Bon, de gars déjà qui se font prendre la misère par d'autres détenus parce que c'est des faibles. C'est vrai qu'ils sont peut-être plus faibles d'esprit, mais bon, c'est pas pour autant que c'est pas des êtres humains et qu'il faut pas leur accorder du respect. Hein, écoutez-moi, les gars qui est derrière les barreaux, s'il vous plaît. Et franchement, tu vois l'avancée et la dégradation des bonhommes, petit à petit, de semaine en semaine. Tu vois qu'ils sortent de moins en moins. Tu vois qu'ils tournent de plus en plus lentement en promenade. Tu vois qu'ils sont de plus en plus maigres. Et arrivé à la sortie, le gars, il est addict à des cachets auxquels il n'était pas addict en rentrant en prison. Et en plus, il n'a plus l'énergie et la force nécessaire non plus pour réaffronter la réalité du quotidien qui nous attend dehors. Parce que quand tu sors, je voudrais faire un petit lien entre sorties sèches, c'est le plus dur. Tu sors, tu as fini ta peine si tu n'as pas de soutien à l'extérieur. Si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas de collègues qui te prennent en charge. Et là, je remercie bien mes potes qui m'ont attendu devant la porte aussi. C'est super dur. Et quand tu sors sans travail, sans logement, sans famille... Sans argent, tu fais quoi ?
Et sans métier non plus, parce qu'on t'a pas fait de formation, on t'a pas...
Par rapport aux formations, il y a des formations qui se font en détention. Je crois que c'est un point que j'ai pas encore abordé aussi. Il y a des formations, mais le problème, c'est que les places déjà sont extrêmement limitées. Donc les places qui sont proposées par rapport au nombre de détenus qui font des demandes, déjà, c'est, je crois qu'il y a peut-être un détenu sur quatre, 25% des détenus demandeurs qui vont pouvoir accéder à cette formation-là.
Et c'est pas ceux forcément qu'on aurait le plus besoin, comme tu dis, ceux qui craquent, c'est pas ceux-là. Ça va être ceux qui se comportent mieux, quoi, des choses comme ça.
Et pas que. Parce que des fois, quand on se comporte trop bien, on ne nous entend pas. Et des fois, c'est dans leur intérêt aussi d'accéder à nos demandes parce qu'on se comporte mal. Parce qu'on fout la pression au service pénitentiaire. Ouais. Et donc, du coup, bon, allez, lui, ça va le calmer de le laisser faire sa formation. Donc, c'est vraiment une manière
c'est
de
un
fonctionner.
Jeu qui est un peu
c'est discriminatoire
de...
et aléatoire. Quoi. Tu sais pas trop selon l'humeur.
C'est tout dans leur sens, en fait. C'est, si ça leur apportera quelque chose, ce sera favorable. Ta requête sera favorable. Si tu as un détenu qui met la pression au surveillant, qui est un peu énervé, mais qui est quand même tempérable. Ils vont accéder plus facilement à tes demandes. Si t'es un détenu bon qui est correct, mais qui voit que t'as du tempérament aussi, ils vont accéder à ta demande. Des fois, il y a des détenus, ils sont super calmes. À chaque fois qu'ils demandent quelque chose,
c'est refus.
Fuck off.
Ouais, parce que de toute façon, qu'on te le donne ou pas, tu resteras calme, quoi. C'est ça.
Rien à foutre. Mmh. Donc reste dans ta cellule et eux, ils osent pas taper à la porte pour dire au surveillant, il faut que j'aille voir le médecin, au surveillant, il faut que je voie le greffe ou il faut crier. Et si tu cries pas, ben non, tu vas continuer de sonner. Il va dire oui, j'arrive, je passe dans 10 minutes, un quart d'heure. Et j'ai vu des gars sonner, des interphones sonner dans la cellule, sonner pendant 24 heures. Hein. Et que l'interphone, au bout de 24 heures, il continue de sonner, la lumière rouge, elle est allumée, et jamais personne n'a répondu. J'ai entendu des co-détenus, des voisins de cellule, taper sur la porte, crier, surveillant, mon co-détenu est en train de mourir. Mmh. Et le gars, il est mort. Hein. Ouais. Le gars, il est mort dans sa cellule, overdose médicamenteuse.
On a déjà témoigné ici, à cette antenne, hein, de gens accusés d'une crise cardiaque, quelque chose comme ça, et les secours n'arrivaient pas.
Les secours n'arrivent pas, c'est qui a la clé ? C'est le directeur de la prison. Le directeur de bâtiment ou le chef du service pénitentiaire, qui est en général logé aux alentours. Donc s'il y a un problème, s'il y a un incendie, s'il y a un incident, un problème de maladie ou quoi, les surveillants déjà doivent être au courant. Pour prévenir les surveillants, tu sonnes, ça répond pas, tu tapes à la porte, ça répond pas, tu tapes comme un malade à la porte, tu cries aux fenêtres, surveillant, pendant des heures. Une fois que le surveillant a réagi, qu'il a arrêté de fumer ses clopes et de boire ses canettes là-bas dans sa loge, il vient, qu'est-ce qui se passe ? Tu lui expliques ce qui se passe. Selon son estime du problème, lui jaugera qu'il est nécessaire de prévenir le directeur pour que le directeur vienne avec la clé des cellules, parce que c'est le seul à avoir la clé des cellules, vienne en détention pour ouvrir la cellule ou pour appeler les pompiers. Ou pour ouvrir la cellule aux pompiers, peu importe. Ça veut dire que ça prend en général un laps de temps de...
plusieurs heures, quoi.
Ben, en fait, au minimum, la dernière fois, il y a un incendie, le gars il s'est immolé dans sa cellule, donc il est mort. Il est mort pas par le feu, il est mort par la fumée, quoi. Intoxication. Ils sont arrivés super rapidement, en 30 minutes. C'était l'intervention la plus rapide, le soir, après la fin des mouvements.
30 minutes, quoi.
Le gars, il est mort. Nous, on voyait les flammes, on savait qu'il allait crever en bas. C'est comme ça. Et le lendemain, tout le monde en rigole en promenade, parce que tu vas pas pleurer. On trouve ça hargneux, c'est triste, mais la plupart des détenus aussi, ils réagissent pas par rapport à ça. Et quand il y a des problèmes, quand la détention respecte pas ce qui est leur devoir, il faut que les détenus se lèvent, il faut qu'on bloque les mouvements. Par exemple, des fois, ils nous livraient pas notre tabac en temps et en heure, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Au bout d'un moment, oui, obligé de dire aux gars, on bloque, on rentre pas dans les cellules, on veut voir le chef de détention. On veut que vous assumiez vos responsabilités.
Et ça, c'est super important. Aussi, faire des actions à plusieurs.
Ah, collectivement, tout seul, tu fais rien. Il faut que les promenades, les surveillants, ils y rentrent pas. Les promenades, c'est notre terrain de jeu. Les promenades, ils y rentrent pas. Ils y rentrent pas, c'est chez nous. Et ça, c'est un rapport de force qui a été instauré aussi par d'anciens détenus qui ont été là et qui se sont battus aussi pour avoir des avantages petit à petit. Parce qu'à force de se laisser marcher sur les pieds et de rien dire, à force de regarder crever ses voisins de cellule et de rien dire, tout le monde ferme les yeux, tout le monde détourne le regard. Et ça continuera de se faire en toute impunité.
Oui, en plus, c'est le système qui veut ça aussi. Hein,
c'est
il
le système qui veut ça. Parce que quand tu fais des émeutes, quand tu bloques des mouvements, il faut savoir qu'aussi tu passes au prétoire. Le prétoire, c'est le tribunal interne en détention. Et qu'on t'enlève des RPS, des remises de peine supplémentaires. Ouais, déjà, tu sais que tu n'en auras pas. Des remises de peine, tes grâces qu'on t'a données en détention. Parce que quand tu rentres sur un an, tous les mois, on va te donner 7 jours de grâce. Si t'es récidiviste, on va te donner 5 jours de grâce tous les mois. Ça, c'est on te le donne systématiquement quand t'arrives en prison. Mais selon ton comportement, si tu fais une émeute, on va te les enlever. Pourquoi on te donnerait des grâces puisque tu vas à l'encontre du système pénitentiaire. Donc les détenus, des fois, s'écrasent pour préserver aussi pour que leur sortie elle reste proche, quoi. Elle arrive plus vite. Tu vois, donc c'est le vie, c'est détourner les yeux, ben. C'est cautionné.
Le but, c'est quand même d'en sortir de prison, c'est de ne pas y rester, ça c'est sûr. Quoi.
Aussi, mais le but aussi, c'est de défendre les frères qui se font marcher dessus et qui sont capables de se foutre le feu en cellule et que les surveillants ne sont pas capables de venir leur ouvrir la porte avant qu'ils crèvent.
Tu voulais parler aussi sur les sorties, là, le lien avec le squat.
Ouais, sur les sorties sèches, je vais parler en mon nom. Je ne vais pas parler en nom général, mais moi, c'est une situation que j'ai vécue et que je pense que beaucoup d'autres détenus doivent vivre et vont vivre encore. Sur les sorties sèches. En gros, sortie sèche, c'est-à-dire que tu as fini ta peine, tu es allé jusqu'au bout de ta peine, on t'a accordé aucun aménagement de peine, c'est-à-dire bracelet, semi-liberté, en général, c'est tout ce dont tu as droit. Et on t'ouvre la porte, on t'a dit bravo, tu as fini ta peine, au revoir. Donc là, tu sors, comme je disais tout à l'heure, sans travail, sans logement, sans argent, sans famille. Tu fais comment pour te loger? Si tu veux avoir un travail, il faut avoir un toit au-dessus de la tête. Pour avoir un toit au-dessus de la tête, il faut avoir un travail. Mais en attendant, c'est un cercle vicieux dans lequel tu vas rester direct, tu vas retomber dans la récidive. Tu vas retomber dans la délinquance, ce qui fait de l'argent pour continuer de vivre. Le temps que tes papiers se fassent, le temps qu'on te donne tes premières rémunérations, tu fais comment pour vivre? Tu vas voler les magasins? Tu fais comment pour dormir? Tu mets un coup de pied dans une porte et tu ouvres un squat. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai aussi des amis qui sont militants, qui vivent là-bas, qui couvrent des squats depuis quelques années. Moi, j'en ai ouvert déjà bien avant de tomber en prison pour la première fois. Et à la sortie, la seule solution qui s'est offerte à moi, ça a été de retourner en squat. De retourner en squat pour pouvoir poser mon sac, pour pouvoir prendre ma douche, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit au-dessus de ma tête, pour avoir le temps de
retourner. Avoir un petit truc pour chauffer ta bouffe, un truc pour chauffer normal, sa bouffe. Quoi.
Sinon, ça veut dire que t'es dans la rue, sinon t'es dans la rue.
C'était où ça, ou la rue?
Et à la merci des flics aussi.
Ah, merci des flics, bien sûr, parce qu'il y a des obligations de logement. Pour la plupart du temps, tu sors sous contrôle judiciaire. Parce qu'ils aiment bien quand même toujours t'avoir sous la main, savoir qui tu vois, ce que tu fais, qui tu baises, la couleur de ton caleçon. Ils veulent tout savoir sur toi. Donc ils te gardent toujours sous contrôle judiciaire. Les termes du contrôle judiciaire, la plupart du temps, c'est des obligations de logement, de soins, de travail et de payer les parties civiles. Sauf que des obligations de logement.
On ne te donne pas les moyens de
alors qu'on ne nous a pas mis d'armes en main pour assumer ces obligations-là. Comment on fait? Si tu n'as pas de garant physique, si tu n'as pas de travail, tu as un trou béant sur ton CV de quelques années selon la peine que tu viens de purger. Tu vas te présenter face à un employeur, ça fait des années que tu n'as pas bossé, donc déjà remettre le pied dans le système du travail, c'est pas facile. Et en plus de ça, trouver un appartement en situation de précarité, sans garant physique, C'est super dur, mais ils peuvent révoquer ton sursis parce que tu respectes pas tes engagements, les conditions du contrôle judiciaire qui sont logées.
Qu'on t'a forcé à signer, quoi.
On t'a forcé à signer, bien sûr, t'as pas le choix, c'est ou ça ou tu les fais en ferme, de toute façon.
Donc du coup, toi, tu parlais justement, voilà, du coup, t'es obligé de te retrouver en squat, et du coup, squat, bah, situation voilà, aussi précaire où les keufs, ils peuvent débarquer et te dire, bah voilà, vous dégagez, et aussi, bah voilà, t'inquiéter au niveau de la justice, quoi, parce que justement, t'as squatté un bâtiment, quoi.
C'est possible. C'est possible, c'est un risque que je prends et moi je mets mon nom sur les procédures.
Après, voilà, ouais.
Bah là tout à l'heure, on discutait ensemble. Là, c'était quoi le nom de l'émission tout à l'heure, s'il te plaît?
C'était le magazine
dans
ce midi.
Le magazine. Tu nous as reçu tout à l'heure au magazine. On a discuté avec le collectif d'habitants avec lequel je vis. Donc sur la réquisition du 44-46 boulevard Lascaux. Voilà, c'est deux gros bâtiments qu'on a réquisitionnés. Moi sur ces bâtiments-là, et sans hésiter, et même que mon nom il sorte vis-à-vis de la justice, oui, je mets mon nom sur la procédure. Je mets mon nom sur la procédure et si un jour ils ont quoi que ce soit à me dire, ils veulent me refoutre au trou. Mais j'irai avec plaisir et je leur dirai de toute façon, ça changera jamais. Vous proposez rien de concret derrière pour que cette situation-là elle soit différente. Alors la justice continuer d'exercer des pressions sur les gens qui n'assument pas ou qu'acceptent pas les termes du contrôle judiciaire. Mais à un moment donné, c'est comme des bailleurs sociaux qui expulsent des gens et qui proposent aucune solution de relogement. Là, dans ce cas-là, vous voulez me refouter en prison, mettez-moi en prison. Mais quand je vais sortir, je vais faire comment? Je vais refaire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que vous me proposez rien de différent.
Non, mais surtout qu'en plus, quelque part, le squat, je trouve que c'est une très très bonne idée, en fait. Bon, mis à part cette précarité, etc. Mais c'est une bonne idée dans le sens que c'est collectif, dans le sens, comme tu dis, que tu peux prendre une douche, que tu peux vivre, enfin, avoir une dignité humaine, quoi. Ça te permet ça.
Bien sûr, c'est une belle alternative au logement.
Ouais,
le squat, c'est vrai, parce que vraiment, ça crée de la solidarité aussi. Et c'est des lieux qu'on remet décents, quoi. Parce que des fois, on arrive dans des bâtiments qui sont délabrés, et en trois semaines, que ce soit des gens qui ont des compétences dans l'électricité, dans la plomberie, dans la maçonnerie, dans la peinture, ou qui sont capables de porter pour faire un déménagement, quoi. T'as des gens qui se greffent à cette cause-là et qui, d'un seul coup, les yeux, disent « Oh tiens, il y a un squat qui s'est ouvert à côté de moi. Ben, moi, je connais un peu la plomberie, je peux venir vous aider si vous avez des problèmes. » Et là, il y a une solidarité, il y a un réseau de gens qui se créent. Ben, comme plusieurs réseaux qu'il y a ici, là, sur Toulouse, là, dont je ne citerai toujours pas de nom parce que j'aime pas citer des noms. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve beau parce que c'est pas forcément des gens qui sont confrontés à cette dureté de la vie. Qui s'investissent dans ces lieux-là.
C'est la solidarité.
Souvent, c'est des gens qui.
C'est important la solidarité.
C'est le plus important, je crois. Ah. Aujourd'hui, il ne nous reste que ça. Quand on dit l'union fait la force, il n'y a pas de solidarité entre nous, on va se faire bouffer par le système.
Et surtout, ironie du sort, c'est que le lieu, pour les personnes qui n'ont pas écouté le magazine entre midi 2, le lieu qui est squatté appartient à la société des chalets qui est responsable de mettre en place des logements sociaux, justement pour des gens.
Et qui veulent virer le squat pour faire un logement social à la place.
C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, ils font quand même un peu plus-value, un peu de fric hein, sur les logements, mais ils disent c'est normal qu'on fasse de l'argent parce que comme ça, on pourra soi-disant financer des logements sociaux, mais on les attend toujours parce que tous les gens qui. Sont dans les listes d'attente de logements sociaux, ça peut faire des années et des années. Et qu'est-ce qu'on fait
jusqu'à 5 ans, je crois que la dame qu'elle a la demande et la réponse positive pour accéder à un logement social, qu'elle a la demande la plus vieille, je crois que ça fait 5 ans qu'elle est classée sur une liste prioritaire. Pour accéder à un appartement prioritaire, bien sûr. Prioritaire au bout de 5 ans, t'es toujours là à être obligé de vivre en squat avec tes gosses qui vont à l'école, tout. Et voilà, c'est franchement des situations qui sont très inconfortables quand même pour certaines personnes. Quand tu le fais par conviction, c'est un mode de vie que tu vas réussir à assumer. Quand tu le fais par dépit parce que t'as pas le choix, c'est vraiment très dur la réalité de ces gosses là. Moi c'est surtout les enfants et les personnes âgées que je regarde, et même pour les parents ça doit être très dur aussi de voir ces enfants ne pas se sentir à l'aise à l'école quand ils sont avec leurs autres camarades, quand les camarades les invitent chez eux pour leur goûter ou pour les vacances. Toi qu'est-ce que t'as fait? Le petit vient en squat, il change de maison tous les 6 mois parce qu'à chaque fois les bailleurs sociaux nous foutent la pression ou les propriétaires nous foutent la pression pour quitter les lieux. C'est pour ça que la bataille d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque squat qui va s'ouvrir, c'est de les faire galérer à nous sortir de là. C'est de passer des accords avec eux, d'entamer des négociations, des conversations. Et si les négociations se bloquent, ternir l'image de ces bailleurs sociaux qui font du bénéfice. Parce que quand on a rencontré le grand directeur là, des chalets lundi, on a été reçu par eux, après une bataille aussi, après avoir tracté, après avoir sali leur image, et ben d'un seul coup, le responsable communication dit « on est obligé de les recevoir ». Ils ont du poids, ils sont en train de salir notre image de bailleur social. Donc là, du coup, ce qui les intéresse, c'est pas l'humain. Ce qui les intéresse, c'est l'image qu'ils défendent. Alors nous, notre combat, on leur a dit...
Les subventions qu'ils ont pour faire ça.
Les subventions qu'ils ont, bien sûr. Tout. Et nous, on leur a dit notre combat, nous, c'est pas forcément d'instrumentaliser ces bâtiments-là pour faire de la politique, mais notre combat, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête et que des familles entières, 70 personnes, qui logent quand même au 44-46 Las Crosses, là, 70 personnes puissent vivre décemment. Ça, c'est notre combat maintenant. Et on lâchera pas l'affaire aussi facilement, parce qu'on est suivi par beaucoup de monde et qu'on a du poids derrière. Et ça, c'est vraiment un rapport de force qu'il faut leur mettre, leur faire comprendre que même si c'est des gens qui ont un tiers du parc immobilier de Toulouse, soi-disant qu'ils font du bénéfice pour réinvestir dans d'autres bâtiments, pour faire encore plus de logements social, pour bien sûr loger encore plus de prolétaires, et bien que leur dire que ça se passera pas comme ça, parce qu'ils jouent sur la spéculation immobilière aussi, à côté. Et,
on est d'accord, on est d'accord.
Voilà, quoi.
Voilà, bref, on s'éloigne du sujet, désolé.
C'est intéressant, voilà. En plus je trouve que c'est une très bonne réinsertion de justement de faire une lutte sociale, mais je suis sûr que ça compte, ça rentre pas dans leur comptabilité.
Non,
ça rentre pas dans leurs critères.
Je pense que j'assume pas les termes de mon contrôle judiciaire en ouvrant des squats, quoi.
Ça, c'est dit.
Je préfère ouvrir des squats, il y a pas de souci.
Bon, et du coup pour parler de tout ça aussi, toi tu parles de ça sur de la musique de temps en temps.
Oui.
Ouais, je commence à me lancer un petit peu. Ça fait quelques années que j'écris. J'ai toujours aimé mettre un petit peu d'engagement dans mes textes, et que ce soit sur les squats, que ce soit sur la tôle, ou que ce soit sur un mode de vie général de précarité, sur les prolétaires, j'aime bien un peu engager mes textes.
Ouais. Du coup, ouais, tu voulais nous en faire une,
ouais,
sur la prison.
Faire une petite démonstration, ouais, je pense là.
Tu l'as écrite sur la tu l'as écrite en prison du coup.
Je l'ai écrite en prison sur la prison, je l'ai interprété la première fois en prison pour le 21 juin 2011.
T'as pas de papier, tu l'as tout dans la tête là.
Tout dans la tête. Jamais de papier.
D'accord.
Voilà, le son s'intitule Bienvenue en prison. Clem, t'as qu'à balancer l'instru. Et moi, je balancerai sur le beat. Ok, les frères et sœurs, entre quatre murs, restez fiers. Hein? Ok, qui dit prison dit maton qui mate à l'œil ton man. Qui dit prison dit drogué qui prennent des cachetons. Y'a ceux qui rentrent le shit, ceux qui rentrent les pifrons. Pour un moment d'évasion, des fois c'est 7 euros le pilon. C'est ça la détention sans substance, y'aurait trop de baston. Car t'es trop sur les nerfs pour pas céder à la pression. Des carottes, des bananes, chétane et ses tentations. Tu passes pas par la case départ, je te souhaite la bienvenue en prison. Les séjours au mitard, les SS et leur frustration. Tout ça, ça te rend crevard, des fois ça te fait perdre la raison. Ta femme pleure au parloir, elle est en manque d'affection. De la prendre dans mes bras me donne tant de sensations. J'ai hâte de te revoir l'un de toi, tu sais je broie du noir. Je rêve de toi le soir et dans tes lettres je lis l'espoir. Chaque jour qui nous sépare n'est qu'un peu plus de purgatoire. Pour l'instant c'est le prétoire et aux fenêtres je gueule le soir. Les jours ici sont gris, leur matricule me rend amer. Je suis de mauvaise humeur, je pense à mes frères et à ma mère. Ici il n'y a pas de pleurs, entre codés on reste fiers. On ne côtoie que dealers, violents, braqueurs ou arnaqueurs. Qui dit prison dit maton qui mate à l'œil ton man. Qui dit prison dit drogué qui prennent des cachetons. Y'a ceux qui rentrent le shit, ceux qui rentrent les bifetons. Pour un moment d'évasion, des fois c'est 7 euros le pilon. Ici le temps est long, dès que je peux je bloque dans les coursives. Toutes les conversations parlent de délits, de cours d'assises. Et ceux qui passent en cassation, dernier cours avant l'évasion. Ceux qui font des allers-retours à croire qu'ils aiment bien la prison. Le quotidien s'instaure, mais tu restes fier, t'assumes tes torts. Va au SMPR pour gagner tes RPS, ta demande de bracelet. En cap c'est faire caler, encore de piges à tourner. À contempler leurs barbelés, leurs criages barreaux d'acier. Les matons qui aiment te mater, derrière leur caméra c'est la télé-réalité. Ici c'est la chaîne T en promenade, ça drague des cartons. Ça trafique et troque des cachetons en attendant que tombe le para. T'inquiète c'est pas de la para, de la patate, du bon gras. En cellule ça te mettra bien, je sais comme ça le temps passera. Pour les yo-yo je coupe mes draps, à la muscu je gonfle mes bras. Fouille au parloir avocat, me fout le seum mais c'est comme ça gros. Qui dit prison dit maton qui mate à l'œil ton man. Qui dit prison dit drogué qui prennent des cachetons. Y'a ceux qui rentrent le shit, ceux qui rentrent les bifetons. Pour un moment d'évasion, des fois c'est 7 euros de pilon chaud.
Merci,
merde. Bon, ouais, grosse dédicace au frère là qui écoute l'émission là entre quatre murs là.
Ouais.
Ça fait bien plaisir de Brighton, ça. Brighton, ça continue de tourner depuis des années comme ça là. Voilà, j'apporte un gros soutien là vraiment aux frères et sœurs là qui galèrent en séjour. Et faut pas oublier que la sortie, elle est même si elle est encore dans X années, elle arrivera un jour ou l'autre. Et faut pas lâcher l'affaire, faut pas se laisser marcher sur les pieds.
Eh ben merci beaucoup, merci à toi en tout cas d'être passé dans les studios pour parler de tout ça. C'est important aussi de savoir ce que les gens qui sont à l'intérieur ont à dire une fois qu'ils sont dehors. Puis bah, pour le message de solidarité aussi.
Merci à vous.
Merci à toi.
À tous les auditeurs. À plus tard.
Une musique.
On peut passer une petite musique, ouais. Alors du coup je l'ai pas préparé. Si on va écouter Lydie Tanté, c'est ça.
Mmh. destin, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y a pas de pays, si tu le veux, prends le mien.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français.
Ces sans-papiers
qui vont bientôt partir
vers leur pays les chiens.
On a tout pris, il n'y a plus rien.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un. Un chemin de l'identité, l'iditanté, l'idée titan.
L'iditanté
à la ronde.
Et dans ce flot d'univérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien.
Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français.
Avec tous ces chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros sel, c'est des tomahawks, des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau si les oiseaux me nantent. Paris sera beau car les oiseaux allez, Paris sera beau.
Notre page internationale, justice, répression, tous ces trucs sympas, par des nouvelles de la Grèce, plutôt des nouvelles positives. Donc on vous avait parlé déjà il y a quelques semaines de la grève de la faim des prisonniers politiques grecs. Donc après 48 jours de grève de la faim, le gouvernement vient de voter une série de lois donc, qui est en lien avec les revendications des prisonniers. Notamment, on apprend que les prisons spéciales de haute sécurité, qui étaient aussi appelées prisons de type C, où l'on enfermait les prisonniers politiques et en résistance, ont été abolies. Bon, on espère que ça va durer, parce qu'on sait que les États et les gouvernements qui abolissent les quartiers ou les prisons de haute sécurité ont tendance à les recréer sous un autre nom. Hein, donc, c'est des chose qu'on a connue aussi en France. Une autre revendication des prisonniers grecs a été intégrée à la loi, c'est donc les condamnés, les prisonniers condamnés à perpétuité ayant purgé 10 ans et étant invalides à plus de 80%, alors ça fait beaucoup de conditions, mais toujours est-il que ces prisonniers-là pourront terminer leur peine à domicile avec un bracelet électronique. On sait pas, c'est toujours mieux que de crever en tôle, mais bon, c'est pas non plus la joie, la joie. Alors par contre, les prisonniers grecs réclamaient l'abolition des lois antiterroristes 187 et 187A, donc ce qui relève en gros de l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, avec un texte juridique, je dirais, assez vague pour pouvoir englober plein de choses différentes, donc notamment toute action de groupes militants, enfin...
On connaît un peu ici.
Voilà, on connaît un peu ça. Mm-hmm. Bon, en tout cas...
Donc ça, c'est pas annulé, cette loi antiterroriste.
Non, ça, par contre, c'était une des revendications principales aussi des prisonniers qui n'a pas été entendue par le gouvernement de Syriza, qu'il avait pourtant promis. Hein. Il faut quand même le dire, hein, c'était une de leurs promesses de ouais. campagne. Hein, mais bon, comme on sait que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui
comme
les font.
Comme toute campagne, donc, comme toute promesse. Ouais, voilà.
Voilà. Et donc voilà, en tout cas, les prisonniers grecs ont donc cessé la grève de la faim qui durait depuis le 2 mars. Et on se rappelle que le mouvement anarchiste grec avait multiplié les actions pour soutenir les revendications des prisonniers, notamment l'occupation du siège de Syriza à Athènes, dont nous vous avions parlé à cette antenne. Mm-hmm. Voilà.
Donc ils ont au moins gagné sur un point.
Voilà, ils ont quand même au moins gagné sur un point quand même assez important.
Pas négligeable quand même.
Pas négligeable.
C'est clair.
Oui. Alors donc, moi c'est une information qui est un petit peu sortie, je crois un peu sur les médias, mais c'est le recel de chaises est-il un délit plus grave que la fraude fiscale? Des chaises, oui, des chaises, des sièges. En fait, se multiplient les perquisitions dans les locaux, et ça c'est contre l'association Bizzi, dans les locaux de HSBC. HSBC c'est une banque qui a une belle réputation.
Suisse, ouais.
Hein. En fait, ces militants de groupe altermondialiste basque, Bizzi, se sont emparés de 8 chaises, en effet, dans la de Bayonne. Une réquisition citoyenne, disent-ils, puisque cette banque a détourné en à peine 5 mois 180 milliards d'euros à l'échelle internationale. Eh bien, ils ont dit qu'ils rendraient les chaises quand HSBC aura remboursé les 2,5 milliards d'euros perdus par l'État français dans cette affaire.
Voilà.
Ils ont détourné 180 milliards. Mais en fait, ils ne pensaient pas qu'il y aurait un tel zèle de la police pour retrouver ces chaises. 3 chaises ont été récupérées par la police dans leur local le 12 février, mais les 5 autres sièges, eh bien, ont été remis à des associations et personnalités diverses. Alors, le philosophe Patrick Vivret, magistrat honoraire à la Cour des comptes, a transmis le 8 avril un siège HSBC, donc cette banque, au sociologue Edgar Morin. Et il faut savoir que l'altermondialiste Suzanne Georges, le sociologue Alain Caillé et l'économiste Claude Alfandéry, eh bien, se sont engagés à héberger le siège recherché par le parquet de Bayonne à tour de rôle. Mais ils disent que si les mêmes moyens étaient utilisés dans ce domaine, donc la lutte contre l'évasion fiscale, des dizaines et des dizaines de dirigeants de banques et de multinationales seraient aujourd'hui en garde à vue ou sous les verrous. Alors, par contre... suite aux moyens vraiment déployés pour chercher ces 5 chaises, la justice a quand même avancé contre cette banque HSBC Holding, qui a été mise en examen à Paris pour complicité de blanchiment de fraude fiscale aggravée, complicité de démarchage illicite, et eh bien elle s'est infligée une caution d'1 milliard d'euros. À payer avant le 20 juin. Et cette somme correspond à environ la moitié des fonds qui auraient fait l'objet de dissimulation au fisc français, selon l'évaluation des juges, soit 2,2 milliards d'euros. Et ce chiffre est contesté, bien sûr, par la banque. Il y a là-dedans eh bien, l'héritière des parfums Ricci, hein, qui, elle, a pris un an ferme pour fraude fiscale portant atteinte exceptionnelle au pacte républicain. Donc l'affaire est quand même assez grave. Mais.
Bon, on va pas se réjouir non plus que quelqu'un fasse du ferme, on est d'accord, mais
non, je veux dire,
pour une fois, ça change de ça
voilà,
change de cible.
L'affaire est assez grave parce que ça va tomber quand même. Hein. Ils ont beau, alors ils disent qu'ils veulent faire appel, etc. et tout, mais l'association Bizzi, eh ben, elle a vu quand même 7 de ses militants passer convoqués par la police pour le vol de chaises, hein, pas pour les milliards, hein, pour le vol de chaises. 6 se sont présentés à la convocation. Ils en sont ressortis soi-disant sans peine, en tout cas, mais mais avec un délit supplémentaire parce qu'ils ont refusé de donner leur ADN.
Ben oui, forcément.
Donc voilà. Et deux autres militants sont convoqués pour le 31 mars pour, et aussi pour refus de se prêter au prélèvement biologique. En fait, il y avait quand même 60 personnes encore en train de manifester pour soutenir les militants lorsqu'ils sont passés au tribunal. Et ils disent, on attend très sereinement le procès dont on nous menace. Donc, la lutte contre la fraude fiscale, normalement, c'est l'État qui l'a fait, mais le soutien à l'association Bizzi, eh bien, on en reparlera encore, je crois.
Très bien, on va passer dans l'un peu moins anecdotique, même si ça n'est pas forcément de l'anecdote non plus d'être devant la justice pour des histoires de chaises. Là, il s'agit des tirs, des violences policières, quoi, et notamment des tirs de flashball sur des manifestants. En fait, le 21 avril 2014, donc il y a quasiment un an jour pour jour, à Toulouse, étaient réquisitionnées deux maisons par la CREA pour loger la CREA, donc la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion. Donc la CREA qui avait ouvert des maisons pour loger des familles, c'était rue Louis Planat à Toulouse, quartier de la Roseraie si je me trompe pas, et en fait les propriétaires et les flics ont très très vite débarqué sur place pour empêcher l'installation qui avait déjà eu lieu. Plusieurs camions étaient sur place dans les rues et les alentours. J'étais moi-même sur place, le déploiement policier était impressionnant. Il y avait la police municipale, la police nationale pardon, les CRS, le SDIG, donc les renseignements généraux, la BAC qui était là, bref, gros déploiement de l'artillerie lourde pour empêcher qu'on puisse se loger en dehors des règles établies, et c'est pas une première pour la CREA. Les flics avaient déjà déployé un hélico et tiré au taser sur un toit pour expulser des habitants. Et là, alors, les flics, ce jour-là, donc le 21 avril, posent un ultimatum, soit une sortie volontaire, ou soit une sortie par la force. Donc, violence, face à cette violence, les familles qui habitaient là depuis un jour ou deux choisissent de sortir par elles-mêmes, mais pour les flics, c'était pas suffisant, il fallait plus. La BAC procède à ce jour-là à 4 interpellations qui aboutiront à des rappels à la loi et un procès pour violence. Et armé de matraques, mais aussi d'un lanceur un lanceur flashball de 46 mm, ils n'hésitent pas à le pointer à hauteur de visage sur des passants et des soutiens aux familles, et aussi à le faire passer de main en main entre les flics, une technique policière qui est bien rodée, en fait, qui rend difficile l'identification du tireur de flashball. Et alors Yann, 26 ans, qui était dans les gens qui étaient là, il prend un tir en pleine tête du flashball, en pleine tête, alors qu'il représentait aucun danger. Et le témoignage est hallucinant de Yann. « La BAC nous a chargé sans raison. Je me suis réfugié derrière une poubelle. Un membre de la BAC m'a vu et m'a dit de sortir de là en levant sa matraque pour me frapper. Je suis sorti en levant les mains en l'air. C'est à ce moment-là que je me suis écroulé. J'étais tellement sonné qu'au début, j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. À l'hôpital, le médecin m'a dit qu'à 3 cm près, j'étais mort. J'ai eu tous les os de la joue cassés ou broyés et une partie d'un nerf touché dont je n'ai retrouvé la sensibilité qu'au bout de presque un an. Il a fallu attendre que mon hématome dégonfle pour m'opérer. On devait me poser une plaque pour aider les os à se remettre. Je me suis réveillé de l'opération avec 5 plaques dans le visage. Quelques semaines après, j'ai commencé à faire des infections. Au début, les médecins ne voulaient pas croire à un lien avec l'opération. On m'a enlevé les amygdales. Mais ça n'a servi à rien et l'infection est revenue. Un an après, j'ai toujours un gonflement au niveau de la joue et je retrouve petit à petit une sensibilité du nerf perdu, mais cela occasionne une douleur comme des décharges électriques. Dans quelques jours, je dois subir ma 4e opération de l'année. On va me retirer les plaques et les infections devraient s'arrêter. Alors ça, c'est Yann qui a été blessé. Suite à cette blessure, il a déposé une plainte par le biais de son avocat et la plainte a été classée sans suite par le procureur de Toulouse, entre guillemets, enfin du coup, je cite, faute d'infraction caractérisée. Selon Pierre-Yves Couillot, donc le Couillot, le procureur, il n'y a pas d'infraction caractérisée alors que les tirs de flashball sont strictement interdits au niveau du visage et à moins de 10 mètres. Sur les photos prises le jour même et les jours d'après, on voit clairement l'impact de balle du LBD. Que faut-il de plus à un procureur pour voir que ce tir n'est ni dans les règles ni proportionné? Alors le classement sans suite, ben là c'est, en ce moment c'est la loi des séries, puisque ces derniers temps les classements sans suite s'enchaînent. Il y a eu Damien, il y a eu Quentin, il y a eu Emmanuel, qui ont tous les trois été éborgnés lors de la même manifestation le 22 février 2014 à Nantes, pendant les manifs qui avaient, donc du coup pendant les manifs de Nantes, et ces trois-là ont vu aussi leur plainte classée sans suite, tout comme Ayoub qui avait été éborgné à Montbéliard en 2012 pendant qu'il attendait le bus. Voilà.
Donc, en fait, les flics ne sont pas responsables de leurs gestes.
Voilà, c'est ça. C'est ce que la justice dit, en tout cas. Et donc, si Geoffrey, il avait été touché pendant qu'il mettait une poubelle devant le blocus de son lycée à Montreuil en 2010, lui, il a vu le policier qui lui a tiré dessus passer en procès et être condamné, ce qui est extrêmement rare. Le flic n'a eu qu'une peine minime, c'est-à-dire du sursis. Et seulement deux autres policiers ont été condamnés pour des faits similaires. L'un pour avoir éborgné ses joues en 2005. Le flic avait reconnu les faits. Et un autre avait été condamné à 2 ans avec sursis pour avoir tiré sur un gamin de 9 ans qui s'appelait Steve à Mayotte. Et donc si toutefois les peines qui sont pas à la hauteur des mutilations et de la violence institutionnelle de la police, on sait à quel point c'est un véritable parcours du combattant pour traduire un policier au tribunal face à la bureaucratie judiciaire quand on est un simple individu. Alors du coup le communiqué poursuit sur le fait qu'on pense aussi aux policiers que la justice a acquittés alors qu'ils ont tiré et mutilé à vie. Ce fut le cas pour Pierre et Bornier en 2007 dont le policier tireur a été relaxé, mais aussi Théo et Bornier en 96. Alors depuis, face à l'autodéfense des mutilés et des familles d'assassinés, puisqu'il y a aussi des assassinats, les institutions de l'État ripostent pour faire taire toutes les violences dissidentes. À Nantes, la procureure porte plainte pour une affiche qui la mettait en scène, là c'est tout récent, vous en avez sûrement entendu parler, en dénonçant le classement sans suite des plaintes de Damien, Quentin et Emmanuel. Donc il y avait une petite affichette pour dire que les plaintes de Quentin, Damien et Emmanuel avaient été classées sans suite avec la gueule de la procureure dessus. Au Havre, le frère d'Abdoulaye Camara, donc Abdoulaye Camara, il avait été assassiné de 10 balles dans le corps dans la nuit du 15 au 16 décembre 2014. Son frère, aujourd'hui, enfin récemment, s'est vu accusé d'avoir collé 7 stickers anti-police. Il a reçu une lettre de la mairie lui demandant de payer la facture du nettoyage qui s'élevait à 105 euros, 106. Bref, du beau foutage de gueule. Donc ces mesures, on est au courant et elles servent qu'à une chose, c'est faire perdre courage et tenter d'isoler les victimes et les familles. Mais il en faut plus pour faire taire les voix que veulent la justice et la vérité. Donc voilà, donc c'était un communiqué du collectif de soutien à Yann. Il se termine par la liste des personnes qui ont été mutilées et la liste des personnes qui ont été assassinées, enfin en tout cas qui ne doit pas être exhaustive, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. La police assassine, la justice est complice, ni oubli ni pardon, justice et vérité pour Yann. Donc voilà, c'était le collectif de soutien à Yann et il n'y a pas que Yann.
Et non, on continue avec la lettre du prisonnier mexicain Luis Fernando Barcenas. Alors du coup, déjà, qui est-il ? Donc c'est un militant anarchiste qui a été arrêté le 13 décembre 2013 et qui est accusé d'avoir brûlé un arbre de Noël de Coca-Cola, ce qui est quand même assez inédit comme délit. Et donc il aurait brûlé cet arbre lors d'une manifestation contre la hausse de 67% des tarifs du métro décidée par le gouvernement de la ville de Mexico. Un recours avait été présenté par sa défense le 11 décembre 2014, mais il a été condamné à 5 ans et 9 mois de prison ferme pour attaque à la paix publique, délit qui l'empêche d'ailleurs de sortir sous caution, ce qui quand même paraît une peine un peu disproportionnée par rapport aux faits. Donc, je vais donc vous faire lecture de cette lettre qu'il a écrite pour la journée de solidarité avec les prisonniers des Amériques, donc qui a eu lieu à Paris le 11 avril. Aux compagnons et compagnonnes, il y en a qui ne comprennent pas que lorsque nous parlons de liberté, nous ne faisons pas référence à la liberté entre guillemets, c'est-à-dire bien sûr à la liberté démocratique capitaliste, et cela ne m'étonne pas. Car c'est la seule liberté que nous connaissons ou à laquelle on nous a laissé la possibilité de penser. Cependant, il arrive qu'après avoir expérimenté les conditions de l'enfermement, de la surpopulation carcérale et de la violence générée par le cannibalisme social, tu te rendes compte que la liberté ne se trouve nulle part et que, bien sûr, elle ne peut être arrachée à ceux qui l'ont vécue et expérimentée dans sa plus large expression. Et donc, rien, ni personne, ni les dieux, ni la nature, ne donne à l'être sa liberté. Il et elle se la donne à elle-même. Il ou elle construit sa vie, ses règles, sa loi. Aucun tyran ne peut nous arracher cela, et si l'un d'eux essaie, il devra alors nous assassiner, comme ils le font de nos jours, en se moquant de nous, ceux qui n'avons rien. Nous ne sommes cependant pas des êtres inoffensifs. Nous avons de la haine, de la rancœur et du ressentiment. Mais tout cela n'est pas ce qui nous rend dangereux. Mais la guerre déclarée à laquelle nous participons et que nous assumons comme telle. Notre amour pour la liberté nous fait devenir les ennemis de l'autorité. Nous, les anarchistes, nous transgresserons toujours les normes. Nous sommes illégaux, clandestins, parce que nous croyons au droit de chacun et chacune à se rebeller contre ceux qui nous font du mal. » Quand l'État et les législateurs essayent et cherchent à soumettre et à convertir les opprimés en simples esclaves au service de leurs privilèges et de leur volonté, à partir de ce moment, les opprimés entrent en guerre contre eux, et en ce moment, le peuple en a marre de leur obéir. La destruction du pouvoir politique nous concerne, et c'est notre mission, et elle continue à travers leurs murs et leurs barreaux. Pour que commence une révolution, il est nécessaire qu'il y ait des rebelles, et aujourd'hui, une fois encore, nous déclarons la guerre après avoir refusé et détruit la paix des puissants. Donc voilà, c'était une lettre de Fernando Barcenas, donc qui l'a écrite dans la prison nord de Mexico le 10 avril 2015.
Une belle lettre, hein.
Oui. Et comme on est en fin d'émission, on va passer directement à l'annonce, je pense.
Ouais, on met 2-3 notes de musique quand même si on la met pas en entière.
Juste la virgule musicale.
Voilà, c'est ça. Et puis c'est du rock qui tâche en plus.
To clamp down with your iron fist, drugs became conveniently available for all the kids. Following the Reich movement to clamp down with your iron fist, drugs became conveniently available for all the kids.
Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood.
Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison.
Offenders, sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders, sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich.
Bon voilà, c'est court mais...
Super,
bon,
mais c'est bon.
Voilà, allez, alors les annonces du coup, ouais, une annonce.
Alors une annonce, alors du coup tout à l'heure on parlait un peu de squat et de la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion. Ben là c'est une annonce pour appeler à soutenir des membres de cette campagne. Donc ça se passe le mercredi 29 avril à 14h devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Donc voilà, on rappelle que la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion, donc ça dure depuis 4 ans, donc il y a des bâtiments vides privés qui sont, et publics qui sont réquisitionnés donc pour loger des gens quoi. Et en novembre 2014, donc suite à l'expulsion d'une maison ouverte pour y loger une dizaine de personnes, la police a enfoncé la porte, procédé à l'arrestation de 9 personnes, et 7 des 9 arrêtés sont poursuivis en justice pour dégradation et refus de signalétique. Donc voilà, donc pour les soutenir, donc,
refus de prélèvement d'empreintes,
oui, voilà.
Empreintes et ADN quoi.
Voilà. Et donc voilà, si vous voulez les soutenir, donc ça se passe devant le tribunal de grande instance de Toulouse le mercredi 29 avril à 14h.
Et voilà, et donc c'est la fin. Bruit de tôle en direct le jeudi de 19h à 20h se termine. Vous pouvez réécouter l'émission vendredi de 17h à 18h. Vous pouvez nous écrire à Canal Sud, Bruit de tôle, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou bien sur internet, bruit au pluriel, de tôle, T-O-L-E-S, tout attaché, @no-log.org. Et puis voilà, la semaine prochaine et bon courage.
Merci à tous de votre écoute, bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Bonne semaine.
L'air pur est bon pour la santé partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs. Ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté.
Voilà, c'est la fin de Bruit de Tôle. Eh bien, l'émission suivante.